affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons entreprendre de lutter contre l'une des tendances les plus funestes de notre époque, celle qui consiste, peut-être sous l'effet de l'accélération de la vitesse qui la caractérise, à se focaliser sur l'instant, à s'enfermer dans le présent, à privilégier le fugace. Nous allons donc entreprendre de nous évader de cette prison pour prendre du recul et dégager des perspectives. C'est bien sûr une tâche ardue et délicate, mais je suis sûr que nous allions y parvenir, car nous avons dans cette entreprise le soutien d'un invité de marque en la personne du chancelier Gabriel de Breuil, qui vient de publier aux éditions Taillandier un essai percutant sur le siècle précédent, c'est-à-dire le XXe siècle. Monsieur le chancelier, bonjour.
Bonjour.
Nos auditeurs vous connaissent bien sûr, car vous êtes déjà venu sur notre antenne, mais ils vous connaissent aussi car vous êtes chancelier de l'Institut de France, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques. Ils savent aussi que vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du XIXe siècle, et ils vont découvrir aujourd'hui que cette passion pour l'histoire qui vous anime s'étend à notre histoire proche, en l'occurrence donc à celle du XXe siècle. La démarche d'ailleurs peut étonner, car le XXe siècle, après tout, c'est hier. C'est encore étonnamment proche, il est encore présent à notre esprit, inscrit même dans notre âme et parfois dans notre chair. Et cela amène une première question. Pour quelles raisons avez-vous ressenti le besoin de vous pencher sur cette période? Car on sent le livre porté par le sentiment d'une nécessité. Est-ce bien le cas?
Vous avez raison de souligner que le XXe siècle a existé et quand même nous y avons vécu. La plupart des adultes ont vécu au XXe siècle. Et ils s'éloignent cependant, et alors le danger, ça serait de l'oublier, de ne plus le considérer comme un siècle important. Ça s'est déjà produit dans l'histoire. Des siècles qui sont comme ça passés un peu à l'oubli. Or celui-là, le sentiment d'urgence dont vous parliez, je l'ai ressenti profondément, ayant consacré un précédent livre sur le 19e siècle, qui est mon siècle d'historien, et que j'avais intitulé le 19e siècle, l'éclat et le déclin de la France, assez vite, je me suis dit que j'aimerais consacrer un livre au XXe siècle, qui au départ d'ailleurs, ce sera plus dans la même continuité, le déclin de l'Occident et le décrochage de la France. Mais tout ça était trop mécanique et trop... En réalité, la question m'est apparue beaucoup plus profonde que cela, et le titre a changé en cours de route. Impardonnable XXe siècle. Alors, est-ce que c'est une condamnation? Non, ce n'est pas une condamnation. Impardonnable, ce n'est pas une condamnation. C'est même... dans le langage courant, c'est moins grave que dans le langage, organisé, social. Impardonnable, on le dit de quelqu'un qui est arrivé en retard d'un quart d'heure. C'était une grande réunion, c'est impardonnable. Et ça ne suppose pas une procédure non plus. Non, voilà, c'est une impression. C'est l'impression. Et donc ce livre n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un récit, ce ne sont pas des souvenirs, pas le moindre souvenir personnel. On n'y trouve pas de portrait, alors que la facilité de tout auteur qui a dépeint une tranche de l'histoire comme ça, c'est de relever son texte par un certain nombre de portraits dans lesquels se concentre tout le piquant, tout le vivant, et même quelquefois tout le talent de l'histoire. Là, il n'y en a pas un. C'est pas une question de grands hommes. Non, c'est le XXe siècle. Et au fond, le sentiment de l'urgence dont vous parlez, qui est vrai, je suis convaincu, d'autant plus que ce livre a été un effort. Et Donc le sentiment de l'urgence, c'est de comprendre le déclenchement de tout ça, car il y a un déclenchement initial, puis l'enchaînement des événements qui se sont enchaînés de manière diabolique, finalement, d'apporter des réponses à la question d'où venons-nous, qu'est-ce que nous avons vécu exactement, d'où le impardonnable.
Oui, impardonnable aussi peut-être, parce que tout commence bien finalement au XXe siècle. En 1900, l'optimisme est de mise, vous le décrivez fort bien, on a l'impression qu'on ouvre une nouvelle ère de progrès, de découvertes scientifiques, il y a une élévation des niveaux de vie... sur le plan des régimes politiques, la démocratie semble triompher, et puis justement, ça déraille. Vous avez parlé d'enchaînement, comment cela se produit-il ?
Oui, on n'insistera jamais assez sur le contraste formidable qu'il y a entre la fin du 19e et les 13-14 premières années du 20e, pour être calendaire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la belle époque... comme on sait, le nom de Belle Époque a été trouvé en 1935.
Oui, c'est rétrospectif, oui.
N'est-ce pas ? Donc, mais en tout cas, elle se voyait comme une Belle Époque, c'est sûr. Et puis, sous le signe de la fée électricité, qu'on représentait une belle dame en atour, tout allait pour le mieux. Il y avait des progrès à faire dans le domaine social, c'est sûr. Mais enfin, la civilisation était bien partie, et notamment les vieilles nations d'Europe et d'Occident participaient pleinement à cet essor de la civilisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un déclenchement brutal. Évidemment, il y a eu une montée à la guerre, c'est sûr. On peut dire que jusque dans les premiers, dans le premier mois de la guerre de 1914, l'histoire était une histoire du 19e siècle. C'était le concert européen qui n'avait pas très bien marché, et les vieux nationalismes se heurtent. Ils n'avaient pas fait attention qu'ils avaient mis des systèmes de détonateurs un peu de manière imprudente dans plusieurs endroits, et que les détonateurs pouvaient se mettre en marche presque tout seuls. C'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un plan conçu de manière générale ? Non. Non. Il y a eu un assassinat de plus, évidemment. Il y a eu un voyage de plus d'un président du Conseil français vers les rives de la Baltique, qui a poussé à la guerre. Mais poussé au conflit, il n'a pas essayé de ralentir. Et puis les choses se sont mises en marche presque mécaniquement. C'est un échec terrible de la diplomatie collective. On avait fait tant d'efforts, n'est-ce pas, pour essayer qu'un concert européen, soit justement là pour atténuer les choses. C'est le contraire qui s'est produit. Et alors, on oublie la violence du choc qui s'est produit en 1914. Tout est sorti de là, comme une sorte de Big Bang. Le XXe siècle est sorti des mois d'août, septembre, octobre 1914. Parce qu'enfin, après cet âge idyllique où les soldats partent en train vers l'Est en chantant, il se produit l'épouvantable. Très vite, l'invasion de la Belgique, des atrocités épouvantables. La cathédrale de Reims bombardée, spécialement bombardée, pour qu'elle soit détruite.
Sciemment, oui.
Comment ?
Sciemment, oui.
Sciemment, pour la détruire, parce que c'est là le lieu du sacre des rois de France, etc. Enfin, puis, l'armée ennemie menaçant Paris, à quelques dizaines de kilomètres, tout ça en très peu de temps, dont une stupéfaction, un ressort assez vif, assez fort, et la Marne. Tout le monde s'enterre. Et on résiste sur la Marne en disant ça va durer quelques mois. Personne ne pouvait imaginer que ça durerait 4 ans. Oui, et que des millions d'hommes seraient tués. Figurez-vous que pendant le mois de septembre de 1914, le nombre des tués dans l'armée française s'élevait par jour à entre 20 et 25 000. 25 000 morts par jour. De la jeunesse, des jeunes hommes morts à 25 000 par jour.
Oui, on peut difficilement se relever d'un tel cataclysme, d'une part physiquement, parce qu'effectivement c'est une saignée effroyable, mais même psychologiquement, car ce que vous décrivez très bien, c'est que certes c'est une guerre, mais des guerres, l'histoire est jalonnée de guerres, mais celle-ci est d'une nature différente. C'est une guerre totale, mécanisée, rationnelle, industrielle, et cela change tout.
Et c'est en cela qu'elle a profondément modifié la marche du siècle. C'est que non seulement il y a eu les combats, les tranchées, la saignée, comme vous dites, mais il y a eu une industrialisation formidable, des usines naissant partout pour produire de l'armement, des obus, des véhicules, un changement de société formidable dû à l'absence des hommes et à l'arrivée des femmes, les remplaçant dans des postes économiques et pas encore de gouvernement ni de direction, mais enfin dans les postes économiques et dans certaines branches d'ailleurs, elles ont tout remplacé, dans l'agriculture par exemple, et dans bien des usines aussi. Et donc ça a entraîné une modification profonde et puis bien d'autres modifications dans, par exemple, l'information, les dérives de l'information. Ben, ça a commencé par la propagande nécessaire, mais qui a été maniée avec une brutalité absolument extrême des deux côtés, évidemment. Et alors là, c'est devenu un chaos assourdissant.
Oui, vous mettez bien en scène le fait que la propagande qu'on associe généralement, et à raison, aux régimes totalitaires qui suivront, est en fait née, et l'acclimatation à cette façon de penser est née dans les tranchées.
Exactement.
Parmi les autres conséquences effroyables, est-ce qu'il n'y a pas aussi une terrible désillusion ? Et peut-être la naissance d'une façon de raisonner, du coup totalement différente, de se projeter dans l'histoire avec des illusions, donc peut-être parfois avec cynisme.
Oui, c'est vrai. C'est vrai si on rapproche dans le calendrier les mises en cause de la nature même, le régime traditionnel en Russie, et en même temps l'écho que ces raisonnements ou démonstrations nouvelles peuvent avoir dans les capitales occidentales, dans, par exemple, la poésie, dans les arts, dans la création. C'est tout de même la naissance d'un certain nombre de mouvements qui n'existaient pas auparavant et qui modifient complètement la manière de penser. Et ça, c'est arrivé très vite et pendant la guerre de 1914.
Par l'optimisme ?
Oui. Ouais.
Est-ce que même cette irruption de brutalité, ce début de déshumanisation, le récit que vous faites de cette guerre, on permet de mettre le doigt sur le fait qu'il y a déjà une déshumanisation. Finalement, c'est la matrice de ce qui va hélas suivre, non ? Au-delà des jeux diplomatiques connus.
Oui, il y a des humanisations. Pour le moment, elle est subie, elle est mécanique. Elle a des conséquences, évidemment, terribles. Mais disons que ça n'est pas un système encore. Et que ça mettra un petit peu plus longtemps à devenir un système. Mais les germes sont là, évidemment. Les germes sont là. De même qu'une réforme, une industrialisation à outrance, le germe est là. De même qu'une intervention de l'État dans des domaines qui n'étaient pas les siens jusqu'à présent, comme je disais, la transformation de la société, le rôle des femmes, enfin, les germes de modifications très profondes sont là, mais tellement brusquement et tellement divers qu'on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Les nations européennes sont concentrées sur leur effort. L'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique est un événement très important parce que ça implique la puissance américaine dans tous ces développement. Et d'ailleurs, elle va en subir des contre-coups formidables du point de vue de l'industrialisation et du point de vue de l'implication dans les affaires qui deviennent mondiales. La guerre est devenue, elle ne l'était pas au départ du tout, et elle devient mondiale en cours de route. C'est aussi un phénomène très nouveau.
Et qui se poursuivra, car l'ensemble de votre premier chapitre est consacré au phénomène de la guerre.
Oui.
Quand elle devient mondiale, comme on le sait, ça se reproduira, mais finalement, le XXe siècle, c'est aussi un peu le siècle des guerres, ininterrompues.
Absolument. Alors, je reviens au livre, comment il est conçu. C'est pas un récit, c'est pas une chronologie. Par exemple, j'ai commencé par dire les guerres, la première, puis la seconde. Alors qu'entre-temps, il s'est quand même passé par pas mal de choses. Et alors après, je dis, les deux guerres ont été une catastrophe, la seconde est issue de la première, évidemment, elle a été beaucoup plus violente, beaucoup plus vaste. Et entre les deux, eh bien, il y a un premier après-guerre, et il y a un deuxième après-guerre. Comparons-les aussi. Et regardons que le premier après-guerre a été complètement raté, on s'est trompé, on n'a pas compris. Hein, et que le second après-guerre, après 1945, a été un effort de ressaisissement et de construction assez réussi, qui a permis de reconstruire une partie des démolitions, des destructions, et de réorganiser en tout cas la partie occidentale du monde de manière rationnelle, industrielle, assez bien conçue, grâce au plan Marshall et aux Américains, il faut le dire. Mais avec les règles financières qui ont été accomplies, avec la création de l'ONU, qui est un grand progrès par rapport à l'ASEAN, avec cette règle que l'ONU aurait un conseil de sécurité chargé du maintien de la paix, rappelez-vous, avec les moyens les plus importants qu'on pouvait imaginer de confier à une instance internationale, et avec cinq nations qui avaient le rôle permanent au Conseil de sécurité, le droit de veto. C'est une vraie construction, n'est-ce pas, de préservation. Et ça a été bien fait. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a tout de même été très bien fait.
Oui, et puis que se serait-il passé sans les instances ?
Oui, oui. Ça existe toujours.
Ouais. Vous le décrivez, c'est ce second après-guerre, comme un sursaut, également un sursaut moral, une façon de retrouver sa propre nature.
C'est ça. Il y a eu un sursaut réussi, qui a évité des catastrophes en chaîne. Alors, ce sursaut, il n'a pas duré éternellement, n'est-ce pas ? Parce que d'autres forces sont mises en œuvre. Et ces forces sont celles qui minaient l'Occident, la supériorité de l'Occident. Et petit à petit, le monde s'est désoccidentalisé. Sous l'effet, d'ailleurs, des recettes de l'Occident. Bien entendu, c'est l'Occident qui a exporté ses propres techniques et ses propres recettes. Et donc, petit à petit, il a subi le contre-coup. Et ça, c'est l'histoire à partir de 1945. On en arrive à ce petit raisonnement, c'est qu'il y a deux XXe siècles. De même que, je le dis en passant, il y a deux XIXe siècles. Il y a le XIXe siècle avant 1848 et après 1848, ce n'est pas le même. Eh bien, il y a deux XXe siècles avant 1945, la catastrophe, le déclenchement du cataclysme. Et après 1945, un essai effrayé de reprendre les... Après aussi, il faut le dire, après l'explosion de la bombe atomique, les choses ne sont plus les mêmes, n'est-ce pas ? L'humanité n'est plus la même. Et donc, c'est un effroi qui s'empare pratiquement de l'intelligence humaine et qui dit, voilà, il faut réagir, il faut essayer de ramener les choses dans un certain ordre. Et le second XXe siècle n'est pas le même que le premier, mais il n'est pas entièrement rassurant. Parce que c'est là qu'on aperçoit un certain nombre de raies de lumière, de raisons d'espérer, de réussite d'ailleurs, mais en même temps de montée des périls, et les dangers naissent en même temps que les améliorations, n'est-ce pas ? Et ça, c'est toute la question de la massification, de la domination de... l'information, des moyens de communication et des moyens de propagande, de médiatisation. Et alors en plus, évidemment, tout change avec la révolution numérique qui est déjà là à la fin du XXe siècle, n'est-ce pas ? Elle est déjà là, on ne perçoit pas encore l'importance qu'elle va avoir, mais elle est dans les faits. Alors, c'est à la fois, à mon avis, je vois la fin du XXe siècle comme un sursaut de raison pour éviter le retour de telles catastrophes, et en même temps une progression des techniques et de la science de telle sorte que cela va entraîner une nouvelle vague de menaces et de très graves atteintes au fondement même de la civilisation.
Oui, le livre est traversé par une réflexion sur les puissances déchaînées. Ouais. Il y a un chapitre où le terme revient d'ailleurs de façon régulière. Puissance de la science, puissance de l'image, puissance. Est-ce que ce n'est pas le siècle aussi de la puissance débridée ou de l'hubris, comme diraient les Grecs ?
Oui, il y a la puissance en elle-même. Il faut qu'elle ait qu'elle soit quantifiable, qu'elle ait une échelle. Alors là, c'est très frappant. Les progrès de la physique, les progrès des technologies, des techniques montrent que les bons sont formidables, y compris dans les chiffres. On le voit dans par exemple, dans les dimensions, on va des nanotechnologies aux années-lumière. Bon, alors comment l'esprit humain peut-il arriver à construire quelque chose qui aille de la nanotechnologie jusqu'aux années-lumière ? Il y a une chose qui permet de mesurer le tout en même temps, c'est le temps. C'est la mesure du temps. On n'y réfléchit pas assez, mais finalement, la mesure du temps marche dans la mesure où elle marche. Est-ce que vraiment les années-lumière, ça correspond à la mesure du temps ? On ne sait trop rien.
Oui, et puis dans ce maelstrom incroyable, vous avez cité les sciences, l'infiniment petit, l'infiniment grand, et puis aussi cette théorie de la relativité, dont vous nous expliquez d'ailleurs qu'elle ne s'articule pas avec la précédente, mais tout ça est un peu désorientant. C'est-à-dire que le relativisme des valeurs induit par les catastrophes se mixe et rencontre en même temps un relativisme inscrit au cœur même de notre compréhension du monde. Est-ce que ça a une influence sur la marche de l'histoire ?
Alors, avant même d'en arriver là, et bien sûr, je souhaite qu'on en arrive là, s'introduit une autre dimension, une autre force de transformation qui est la massification. Le principe d'accumulation. L'humanité aborde un âge qui est dominé par la massification, le principe d'accumulation. Tout s'accumule, y compris la population. Jamais on a connu une croissance de la population pareille, et c'est encore devant nous. Il y a de nouvelles étapes devant nous. Ça change tout. Enfin, beaucoup de choses. Enfin, et ce n'est qu'un des aspects. Il y a une massification, par exemple, dans simplement la manière dont les gens vivent. L'urbanisation. On ne compte plus maintenant les villes peuplées de plus de 10 millions d'habitants. Ce qui n'avait jamais été conçu dans l'histoire. Maintenant, la Chine ne connaît pas le nombre des villes qui ont plus de 10 millions d'habitants. Bon. c'est une autre dimension, une autre planète, une autre humanité, d'une certaine manière une autre humanité, dans laquelle le principe d'accumulation déborde et rend extrêmement difficile ou même impossible tous nos systèmes de raisonnement, de conservation du savoir, et même d'éducation, même de formation. Nous avons un système d'éducation qui est fait pour les individus, qui est fait pour une relation personnelle entre le maître et l'élève, qui est fait, etc. Et nous avons tout un système social qui est fait quand même encore pour des relations interpersonnelles entre les personnes, les individus. C'est à chaque fois, toutes les évolutions qui se font érodent ce système, l'affaiblissent et le remplacent par des relations massifiées, collectives, qui entraînent beaucoup plus de force et de violence, et en tout cas moins de raison.
Oui, on a l'impression d'une description du règne de la quantité, en quelque sorte. Mmh. Toute cette deuxième partie du XXe siècle, on a le sentiment qu'on a trouvé en nous-mêmes le ressort de sortir, de vaincre la barbarie, mais que d'autres poisons, de façon insidieuse, sont là. Et c'est d'autant plus difficile de les démêler qu'en eux-mêmes, ils peuvent représenter des progrès, des étapes bénéfiques, mais que si on pousse la logique et si on laisse ces principes s'échapper, ils vont mener inexorablement à de nouveaux problèmes et éventuellement de nouvelles catastrophes. C'est très en ombre et lumière, la description.
Bien sûr. On peut détailler, d'ailleurs, et c'est extrêmement important. Il y a une première donnée qui intervient, c'est celle de l'oubli. On a pu penser que l'oubli était une nouvelle étape de civilisation. Je pense, au contraire, qu'il n'y a jamais eu de civilisation fondée sur l'oubli. La mémoire est à la base de la civilisation, à la base de la transformation de l'homme, à la base de la manière dont il a, lui, pris possession petit à petit de son environnement, et de la mémoire et la transmission. Évidemment. Et alors, de dire que nous sommes dans la civilisation de l'oubli, c'est une négation totale d'une situation millénaire qui avait entraîné un certain état de la société et de la civilisation. Alors, c'est remplacé par quoi ? C'est remplacé par l'ère des masses, évidemment. Les masses, ça veut dire une désindividualisation. Et forcément une baisse de la liberté de l'individu.
Quoi qu'il en pense.
Quoi qu'il en pense et quoi qu'il croit, avec tout le système encore juridique qui est en place, qui fonctionne imperturbablement, mais globalement, c'est tout de même très, très menacé et beaucoup moins solide que ça ne l'était précédemment. Dans les concepts, le désordre s'insère aussi, par le fait que, d'abord mécaniquement, parce que la transmission est beaucoup moins assurée que précédemment, donc il y a même au contraire un refus d'une transmission globale, d'un héritage ayant une force, ayant une valeur, devant être conservé. Ça, c'est bien mécanique. Et alors, après, il y a une explosion des modes de pensée, de découverte, de création, qui atteint des degrés extrêmement développés. N'est-ce pas, l'idée même du créateur unique, qui est titulaire du droit d'auteur, qui est auteur personnel, titulaire du droit d'auteur, et dont le droit d'auteur ne peut pas être méconnu. Qui est une idée civilisatrice formidable, sur laquelle toute notre civilisation depuis le Moyen-Âge porte, et dans laquelle la France a joué un très grand rôle, la reconnaissance du droit d'auteur. Eh bien, les nouveaux moyens d'expression vont directement contre ce droit d'auteur personnel, et notamment la diffusion, la reproduction à l'identique, l'explosion des images. L'explosion des textes, d'ailleurs, des textes qui sont même plus imprimés, qui circulent comme cela, font que rechercher le droit d'auteur, ça devient extrêmement difficile. Dans certains cas, ça devient difficile. Là, ça aussi, c'est une désindividualisation. Et alors, où est-ce que cela nous mène ? Ben, cela nous mène à des formes d'art qui sont certes respectables, mais enfin qui sont très souvent éloigné de l'individu créateur. Il y a peu de disciplines qui continuent à s'exercer de manière individuelle. Il y en a, mais relativement peu. Et alors, il est intéressant de réfléchir à cela, et surtout quand on voit les différentes formes d'art, on en vient là, je crois qu'il faut en venir là, pour le XXe siècle. Le XXe siècle est l'art, n'est-ce pas ?
Phénomène central dans ce siècle.
C'est absolument central. C'est absolument central et c'est même un des points de rédemption. L'art n'est pas perdu. Il aurait pu se perdre. Il y a des menaces. Mais l'art n'est pas perdu. L'art est au contraire revivifié. il n'a rien abandonné complètement. Et une question se pose, qui est de savoir, dans l'activité créatrice, il y a toujours un aspect de prévision. Et on a souvent recherché dans le passé quelle était la discipline artistique qui prévoyait le mieux. Est-ce que c'est le musicien ? Est-ce que c'est le peintre ? Est-ce que c'est le romancier ? Alors ça, le romancier a prétendu remplir cette mission, n'est-ce pas ?
Tous, et bien d'autres, d'ailleurs.
Tous, oui, bien d'autres. Ils sont devenus le créateur, par définition. Est-ce que c'est le poète ? Alors la question se pose et mérite d'être regardée. J'ai une petite idée de ce point de vue.
Non mais écoutez.
Et curieusement, je pense que le romancier a perdu cette espèce de magistère formidable qui était la base de tout un édifice que je suis le premier à célébrer constamment, qui est tout simplement la littérature. Enfin, la littérature, ça n'a pas toujours existé. Et en France en particulier, ça a existé à un point formidable. Alors, quelle est la discipline artistique de création qui annonce l'avenir le mieux ? Je ne pense pas que ça continue à être le roman. Je ne pense pas que la peinture, qui me paraît assez essoufflée, ne prédise une nouvelle ère. Je pense que on ne fait pas assez attention à la musique. Le XXe siècle a été un très grand siècle pour la musique, très grand siècle et très français, mondialement. Les Français peut-être ne le savent pas assez, mais la rénovation de la composition musicale et de l'orchestration, même des formes générales d'expression de la musique et des succès a été considérable pendant tout le XXe siècle, enfin au moins pendant les trois quarts du XXe siècle, et d'une importance absolument considérable. Les écoles, la succession des écoles, les très grands créateurs, avec une célébrité, les différentes disciplines qui se déclinent les unes après les autres, la présence de musique exotique qui reflète aussi une réalité sociale profonde, et avec quel succès, parlant du jazz. Tout cela est un grand succès, très, très élaboré, très satisfaisant, et d'ailleurs plein de succès encore aujourd'hui. Donc la musique a un rôle social, et sert-elle à prévoir l'avenir, à prévenir l'avenir, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas elle a un rôle central. Alors finalement, je dirais que la discipline qui prévoit le mieux l'avenir, c'est la poésie. C'est la poésie dans la mesure où elle reste intelligible, où elle reste significative, où le poète se sent une responsabilité dans la prévision de l'avenir. Ça existe encore. Et je crois que c'est là que c'est un retour au très ancien passé, n'est-ce pas ? C'est un retour à l'Antiquité.
Et que nous dit-elle alors, la poésie ?
Eh bien, moi je crois qu'elle chante la réflexion, le temps long, l'individu, la transmission, l'espace limité, le temps ralenti.
Ce sont des antidotes que vous nous décrivez. Ce sont des antidotes à tous les méfaits.
Peut-être des besoins naturels, fondamentaux. Les besoins fondamentaux pour se retrouver, tout simplement. Et en tout cas, une petite partie de la population se retrouve.
Oui, car quand vous parlez de la massification, on a aussi quand même le sentiment qu'il y a une sorte de... Enfin, malgré l'appel incantatoire à l'égalité, on a quand même le sentiment qu'il se met en place une société aussi qui est très, très clivés, très tendus entre, d'une part, ceux qui sont happés par cette massification qui, généralement, quand même, les entraîne plutôt vers le bas, pour dire les choses clairement. Il n'est plus l'heure de prendre des précautions. Et un certain nombre de gens qui constituent encore une sorte d'élite diffuse, sans parfois en avoir conscience, mais qui arrivent à s'extraire de ce mécanisme général. Est-ce que c'est pas un des enjeux aussi
Est-ce que c'est, vous avez raison de dire cela. Mon interrogation, c'est est-ce que c'est une des lignes de force de l'avenir et on débouche, si nous avons encore un instant...
Nous avons encore un instant, nous prendrons tout le temps qu'il faut.
On débouche sur, disons, où en sommes-nous ? Non seulement d'où venons-nous, mais où en sommes-nous ?
Oui, ce qui est le vrai objet du livre.
Le vrai objet du livre, permettez-moi. Vous êtes, oui. Merci de le dire, parce que c'est la réflexion qui sous-tend toutes ces analyses. Je précise encore que le livre, ça n'est pas un récit, n'est-ce pas ? Ce sont des analyses.
Ce sont une série d'éclairages sur des phénomènes, des lignes de force, dont on puisse tirer des enseignements pour aujourd'hui.
Alors, de ce point de vue-là, nous sommes à un tournant, et ce tournant, il apparaît continuellement dans tous les domaines, et il est extrêmement frappant, c'est que les techniques à l'œuvre en ce moment amènent un changement, un bouleversement profond de l'organisation sociale et de la place de l'homme dans la société et sur la Terre. Un bouleversement considérable. Alors, la révolution vient de la numérisation, qui à la fois nous aide à vivre tous les jours et dont nous bénéficions, qui est une merveilleuse invention. Mais la numérisation fait naître des dimensions tellement grandes qu'elle modifie même la place de l'homme dans l'ensemble. Et ces modifications sont tellement grandes que le raisonnement lui-même, la raison humaine, apparaît bien pauvre et bien faible par rapport à ce que la force de la numérisation peut donner. Alors, ça se traduit par des algorithmes. Il faudrait bien que l'ensemble de la population réfléchisse sur ce que c'est qu'un algorithme. Est-ce que ça peut devenir méchant ou nuisible ? Et la conséquence aussi, c'est que lorsqu'il y a plusieurs algorithmes qui ont été bien combinés et qui se croisent, eh bien, c'est plus la peine de décider, de demander aux gens de décider, de faire un effort, de réfléchir, etc. Non, la décision, elle est toute prise. C'est lorsque les algorithmes se croisent que la décision est prise. On n'a même plus besoin ni de la prendre, ni de l'appliquer. Elle s'applique d'elle-même. Alors que devient l'intelligence humaine ? Eh bien, on s'aperçoit qu'elle est petit à petit remplacée par des forces techniques et des mécanismes techniques. Alors ça s'appelle un robot ou pas un robot ? Ben, quand c'était des choses matérielles, compréhensibles, c'est un robot. Quand c'est simplement le mécanisme de la pensée, c'est plus un robot, c'est l'intelligence artificielle. On a là, c'est le grand mot. L'intelligence artificielle. Alors, est-ce que... Voilà ce qui est à l'œuvre. Voilà ce qui est à l'œuvre maintenant. Et voilà. Alors, d'où un certain nombre d'idées philosophiques qui ont des noms un peu bizarres, qui sont le transhumanisme, le post-humanisme. Et les Américains ont même dit, enfin, il y a un petit noyau de philosophes américains qui dit « l'humanisme ». Alors, l'humanisme, pour voir où va l'humanisme, c'est la constatation que finalement tout ça est raté. On a raté l'humanité. Et alors, le mieux, ce serait peut-être de la supprimer. Et il y a une chose qui existe, c'est la Terre, elle est bien. Vraiment, c'est bien. Puis il y a le système solaire et au-delà, l'univers, l'espace. Ça, c'est bien, ça marche. Mais l'homme, c'est une petite expérience qui n'a pas marché. Donc, l'humanisme, ça consiste à dire, écoutez, on a une planète qui est assez jolie, on pourrait prendre collectivement la décision de supprimer l'humanité et de laisser à la Terre sa chance pour un renouveau. Il apparaîtra bien des espèces qui prendront la tête de l'évolution et qui inventeront autre chose. Ça a été dit et publié, n'est-ce pas, dans certaines universités américaines. Très peu, mais voilà. Donc, on est en pleine folie.
Et... On vous mène le désenchantement dont nous parlions.
Oui, on est en pleine folie. Alors, il y a une réflexion à faire maintenant sur ce thème, j'ai écrit un livre sur l'abominable XXe siècle, mais il y a une réflexion à faire maintenant, elle est posée, beaucoup de travaux, de publications s'y attellent, sur l'avenir du XXIe siècle. Il serait temps de s'en préoccuper.
C'est certain, c'est une belle ouverture, mais j'ai encore envie de vous poser néanmoins une question, parce que je profite de vous avoir sous la main pour éclairer les questions qui me sont venues en lisant l'ouvrage, et notamment cette ligne de force et cette tension plutôt qui le traverse. On a le sentiment, mais peut-être me trompais-je, que l'un des dangers, c'est ce règne et cette puissance de plus en plus forte de la technique, ou de la raison réduite à la simple rationalité, et qui nous mène vers ce que vous avez décrit, transhumanisme, post-humanisme, règne des algorithmes, même d'une certaine façon, calcification ou mécanisation de la décision publique, avec affaiblissement du coup de l'authentique démocratie, et que tout cela doit être complété par quelque chose. Vous avez évoqué la poésie, mais... Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment neuf, finalement, par rapport au 19e notamment, que la raison, au sens strict, ne peut pas tout, et qu'il faut y ajouter quelque chose de supplémentaire pour assurer notre salut, car après tout, la raison et cette façon de raisonner, là aussi, menée aux tranchées, au génocide, au nationalisme déchaîné, et à ces puissances débridées que vous avez très bien décrites.
Allons-y, prononçons le mot de conscience, n'est-ce pas, qui est une des données de l'existence même de l'homme. De l'humanité. Alors, en effet, la dérive, elle vient du 19e siècle. Nos ancêtres que nous célébrons tellement ici, à l'Institut de France, nos ancêtres, les fondateurs de la lumière, la civilisation de la lumière, n'est-ce pas, les encyclopédistes, les philosophes ont cru qu'ils avaient entre les mains un instrument qui allait permettre de régler complètement le devenir de l'humanité, la raison seule. Et que, au début, les premiers pas de la sociologie, ils l'ont appelé, les philosophes du 17e, ils l'ont appelé la mathématique sociale. Et donc, c'était pas la peine de réfléchir, il fallait simplement avoir les bonnes définitions mathématiques. Et c'était de la mathématique. Donc, voilà, le règne de la raison pure. On y a cru pendant une bonne partie du 19e siècle. Et quand je disais qu'il y avait deux 19e siècles, ça n'est que vers les deux dernières décennies du 19e siècle que le règne de la raison pure a été mis en cause par les physiciens d'abord, et puis après de manière assez générale, par le surréalisme, etc. Donc, c'est pas tout à fait nouveau, mais ça devient maintenant angoissant, parce que le règne de la raison pure, un siècle de règne de la raison pure, ajouté à un siècle d'atrocités et de crises épouvantables, font que ce qui, notamment, existait avec la raison qui était la conscience, se doit se rechercher maintenant dans des confins un peu éloignés de la vie collective ou de la vie intellectuelle. Et cependant, l'homme n'existe que par la conscience. Et l'homme, c'est-à-dire l'espèce humaine, l'humanité, d'où est sortie la civilisation. Et le moment est venu de dire que on ne peut rien faire si on ne rétablit pas la relation fondamentale entre l'intelligence et la conscience. Cela impose la redécouverte d'un certain nombre de principes qui sont connus comme... complètement connu, sur lequel a reposé tout le système d'enseignement pendant des siècles. Cela suppose donc de rétablir l'enseignement, l'instruction, l'éducation sur ses vraies bases. Et cela impose de rétablir ces notions, y compris dans toute l'activité publique, dans tout le système de législation. Il n'y a pas de législation pure, sinon on est transformé en matière gérée par des machines qui découpent la matière en tranches. C'est de la charcuterie. pardon, mais une législation matérialiste, c'est de la charcuterie. Donc il faut rétablir cela, y compris alors sur une brave notion qu'on aime bien, et tout en connaissant ses faiblesses, mais que on voit qu'elle échoue, qu'elle n'arrête pas d'échouer, que on ne sait pas si on va la garder, mais tout de même, cette vieille notion, c'est la démocratie. Elle est menacée. Elle est menacée dans son principe même et dans son application, dans son mécanisme. Tout le temps, tous les jours, les élections ne sont plus ce qu'elles étaient. Le principe même de l'élection n'est plus ce qu'il était. D'ailleurs, quand on nous dit que bientôt les élections vont devenir inutiles, qu'il va suffire de consulter le peuple et qu'il va répondre en appuyant sur une touche et qu'on peut le consulter toutes les 10 minutes, ça n'entraîne aucune difficulté, eh bien c'est la fin de la démocratie. Et c'est-à-dire que c'est la mécanique remplaçant la raison et la conscience. Et donc, il est temps de marquer un coup d'arrêt.
Chancelier, merci beaucoup. Vous avez utilisé le mot « démocratie ». J'irai même encore plus loin, si vous me le permettez. Je dirais que derrière ce titre, un peu rude et dur à encaisser avant de se plonger dans l'ouvrage, « Impardonnable XXe siècle », derrière ce titre, c'est un appel à un nouvel humanisme, finalement, qui est décrit au travers de cette vaste fresque.
Parfaitement. Merci beaucoup.
Merci à vous. Je rappelle, car cette émission a une suite, comme toutes nos émissions, la suite c'est de se plonger dans les ouvrages des auteurs. Et je rappelle donc les références de celui-ci, Impardonnable XXe siècle, aux éditions Talendier, par Gabriel de Breuil de l'Académie française. Et dans un second temps, après l'avoir lu, se plonger, comme le chancelier le suggérait, dans les autres antidotes que sont l'art, la poésie et la musique particulièrement. Merci à vous.
Merci. Thank you.